Je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, on reçoit Vincent du domaine Chanson, direction La Bourgogne. On est vraiment ravis de l'accueillir. Comment ça va, Vincent ?
Super. Chaudement.
Chaudement ?
Mais ça va très bien.
Bon, bah parfait. Alors, petit programme d'aujourd'hui, on va parler un peu de toi, de ton parcours, de ton arrivée au domaine Chanson, de vos projets et puis de nos deux, thématiques principales et très importantes pour nous qui sont les enjeux du dérèglement climatique et environnementaux et le vin et les jeunes. On aura la chance également de déguster une cuvée que tu nous as rapportée gentiment. Surprise. Écoute, je te propose pour commencer tout simplement de te présenter.
Très bien. Donc, alors j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, trois garçons. Je suis né en Alsace, donc pas bourguignon de souche. Et en plus, pas totalement français, puisque mon père est français, ma mère est allemande. Et je n'étais pas du tout issu du milieu du vin, puisque mon père est général. Donc, un environnement, un univers très différent. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs régions, et on pourra y revenir après, pour arriver, maintenant ça fait à peu près 22, 23 ans en Bourgogne.
Ok, et ben justement, on va commencer par le début, comme tu le dis si bien. T'as grandi en Alsace, du coup ?
Ah, pas du tout, parce qu'étant fils de militaire, on déménage par définition tous les 2 ans ou tous les 3 ans.
Okay.
Et on visite toutes les belles villes de garnison du nord-est de la France et du sud-ouest de l'Allemagne.
D'accord.
À l'époque, quand il y avait encore des régiments en Allemagne. Voilà.
Ok.
Donc, je suis arrivé dans le monde du vin. Donc, j'ai surtout vécu, comme je l'ai dit, plutôt vers le nord-est de la France. Et c'est l'amour, en fait, qui m'a fait arriver dans le monde du vin, qui m'a fait arriver à Bordeaux.
Ok.
Mon épouse, enfin, pas encore mon épouse, mais ça allait devenir, était à l'École nationale de la magistrature, qui se trouve donc à Bordeaux.
D'accord.
Et donc, je l'ai rejointe. Et mon aspiration après mes études de commerce international, c'était de travailler dans le luxe français. Pas le luxe, j'allais dire bling-bling, le luxe, l'artisanat, vraiment le souci du détail, la valeur ajoutée par rapport à un savoir-faire, à une histoire. Et donc, en arrivant à Bordeaux, qu'est-ce qu'il y a comme produit de luxe ? Du vin.
Notamment.
Voilà. Et je n'étais pas du tout, proche de l'univers du vin. Très sincèrement, j'en buvais quasiment pas à cette époque-là.
Ok.
En fait, le vin, pour moi, c'était le verre que mon père agitait le dimanche midi au repas. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait là ?
Pourquoi il tourne encore ce verre ?
Exactement. Exactement. Donc, j'étais pas du tout sensible à l'époque. Bon, c'est peut-être parce que mon père faisait pas des bons choix de vin. Et puis, donc, je suis arrivé à Bordeaux et j'ai commencé à travailler pour un négociant bordelais. Et là, je suis tombé vraiment. Alors, j'étais déjà amoureux de mon épouse. Et puis, en plus, je suis tombé amoureux aussi d'une profession.
Donc, il y a de l'amour à trouver à Bordeaux.
Ouais,
tout à Ok, donc tu es arrivé juste après tes études de commerce, directement dans le vin.
Alors j'ai fait mon service militaire en tant qu'officier d'abord,
okay.
pendant un an, donc j'étais officier dans la cavalerie, et puis après mon service militaire, oui, j'ai trouvé mon job à Bordeaux comme responsable de zone export. J'étais responsable d'une dizaine de pays en Europe,
voilà,
pour un négociant bordelais qui s'appelle toujours d'ailleurs Barrière Frères,
ouais,
qui appartenait à l'époque à une société d'assurance, la GMF, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, et puis au groupe japonais Suntory. Donc, il y avait Barrière Frères, il y avait Château Bechevel, Château Lagrange, Château Beaumont. Et puis, à l'époque, il y avait également un domaine en Hongrie qui s'appelle Tokaj Hetzele.
Ok, ouais, donc il y avait déjà une belle sélection. Et
ouais.
Puis, des vins déjà haut de gamme.
Super.
Le luxe, comme tu souhaitais.
Et voilà, okay. Des très grands vins. Et donc, j'ai découvert cet univers. Et alors, j'ai découvert avec... je suis arrivé, ça devait être en 94. 16, oui. Et en fait, c'était la campagne primeur 95 qui commençait.
D'accord.
Et ouais. Qui était un millésime excellent après des millésimes qui avaient été compliqués. 91, 92, 93, 94, c'était pas terrible. Et là, du coup, il y avait
une attente.
Une demande qui revenait à fond. Donc, je suis arrivé à un moment où j'ai découvert le monde des grands vins, le monde de la mise en marché à la bordelaise avec les primeurs, avec les dégustations primeurs, avec tout ce système aussi de points par cœur, etc. ou qu'on peut juger bien ou pas bien, enfin ça ouais. C'est une autre question, mais c'était vraiment, oui, j'étais immergé très rapidement à un moment où la vague reprenait, et donc c'était super.
Ok, donc tu as commencé par le bordelais.
Mmh, ouais. J'ai progressé après.
Ah, c'est moche. Et du coup, tu as vraiment expérimenté déjà l'international
Oui, j'avais principalement les marchés européens, on va dire continentaux, donc surtout Allemagne, Suisse, Autriche, Benelux.
Et tombé amoureux du produit aussi, à force des dégustations, ça t'est venu comment un petit peu
Alors oui, c'était marrant parce que donc celui qui était directeur export à l'époque, qui m'avait recruté, m'avait demandé alors le vin, et donc je lui avais dit, ouf, non, je ne connais pas trop. Il m'a dit, de toute façon, on va vite se rendre compte après un mois ou deux si t'es fait pour ou pas.
Ah oui, d'accord.
Et en effet, c'est allé. Oui, non, mais bonne pression, saine, franche. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, bah allez, on va tenter le coup. Et c'est vrai que c'est quand même un univers qui est assez impressionnant lorsqu'on n'a pas de connaissances.
Bien sûr.
Parce qu'on pense beaucoup que apprécier du vin, c'est avoir de la connaissance, alors qu'en fait, il n'y a pas que la connaissance, il y a aussi la sensibilité et l'aptitude personnelle à éprouver des sensations. Moi, je connais des personnes qui sont des vraies encyclopédies sur le vin, mais en termes de sensations et d'émotions, on a l'impression qu'ils sont un peu plus coincés, alors que d'autres ne connaissent absolument rien, mais en revanche ont une grande sensibilité et avec peut-être moins de connaissances, arrivent très bien à apprécier aussi et à qualifier des vins. Et donc moi, j'ai fait l'apprentissage, on va dire, sur le tas, et c'était justement pendant la campagne primaire, donc il y avait toujours des échantillons qui restaient au labo,
bien sûr, ouais.
Parce qu'en fait, on goûtait les vins sur fût, etc. Et donc je les récupérais pour les ramener chez moi, avec l'autorisation de mon chef. et donc je pratiquais comme ça à la maison, et je me suis dit, waouh, c'est génial. Enfin, ouais. J'ai eu un coup de foudre parce que là, j'ai senti tout ce qui était justement la diversité, que c'était pas chaque fois la même chose. Et donc, j'ai éprouvé une forte sensibilité et c'est devenu une passion.
Il y a le côté un peu émotionnel et le côté un peu intellectuel.
Tout à fait.
Tu dis qu'il faut un peu joindre les deux pour apprécier véritablement le jeu de vin. Quoi.
Et alors, donc, le produit, super.
Ouais.
Et puis après, en plus, aller rencontrer des acheteurs ou des amateurs ou des sommeliers à l'étranger et voir la passion aussi que ça génère, qu'un produit français peut faire briller les yeux en fait des personnes à qui on propose, c'est aussi une super sensation parce que tu as l'impression pas juste d'exporter du vin, mais tu exportes aussi ton pays, sa culture, son histoire. Et puis, c'est un univers dans lequel on rencontre beaucoup de gens sympathiques.
Oui.
Donc c'est plutôt
passionnant et passionné.
Plutôt sympa, ouais, exactement. Et donc si ça match, eh bien on a des super expériences, des super rencontres.
Génial. Ok. Et du coup, t'es resté combien de temps
Alors 3 ans.
Ok. Oui.
3 ans parce que c'était la durée de formation à l'École nationale de la magistrature pour mon épouse. Et donc le système à l'ENM, c'est que tu as un rang de classement et selon ton rang de classement, tu vas pouvoir choisir ta mutation.
Ouais.
Et donc mon épouse m'avait dit, bon, je vais pas être dans les tout meilleurs, mais je serai dans le milieu du truc. Et où est-ce que tu voudrais qu'on aille? Elle m'avait dit Bordeaux, oublie, parce que en général ça part dans les premières destinations.
Ouais. Ils sont déjà installés là-bas. Voilà.
Et donc j'avais dit, écoute, prends une mutation dans une région où il y a du vin. Bon, alors en France, c'est bien parce qu'on est quand même assez gâté à ce niveau-là.
Pas trop de risques, à part la Bretagne.
Voilà. Et encore, ça va venir avec le réchauffement climatique. Et donc, mon épouse a été mutée sur la cour d'appel d'Angers pour son premier job. Et donc, nous sommes installés à Ancenis, qui se trouvait donc entre Nantes et Angers. Et parce que j'avais dit, bon, si je suis entre Nantes et Angers, ça me donne plus de possibilités pour trouver un job dans le vin, parce que je voulais continuer à travailler dans le vin. Et donc, on choisit Ancenis, et puis j'ai trouvé un job pile à Ancenis.
Ah, incroyable, finalement.
Il y avait une coopérative. Donc, pas du tout le même univers qu'avant, parce qu'à Bordeaux, c'était un négociant, ouais, avec le classé de Bordeaux, etc. Et donc là, c'était la coopérative des vignerons d'Ancenis. Donc, Muscadet, Anjou, Crémant de Loire... des Gamay Coteaux d'Ancenis, enfin voilà ce genre de vin. Et donc voilà, j'ai commencé et j'ai travaillé là pendant 2 ans. Et donc c'était une expérience totalement différente, évidemment, parce que là c'est pas le négoce avec les points par cœur, etc. Là c'est vraiment un autre univers qui était très intéressant, très formateur. Et donc voilà. Mais après 2 ans, c'est vrai que il me manquait la caractéristique luxe.
Oui, c'est ce que je demandais, parce que du coup, tu l'avais perdu un petit peu.
Voilà, ouais. Voilà. Donc la Loire, c'est il y a des super bons vins, mais c'est vrai que le côté luxe, c'est plus, on va dire, sur Sancerre, Pouilly. Et bon, Muscadet Saint-Surlis, c'est excellent, moi j'adore ces vins-là, mais voilà, on n'est pas dans l'univers du luxe, et d'un point de vue export, c'était déjà beaucoup plus limité.
Bien sûr, ouais, ok.
Et donc après 2 ans, J'ai dit à mon épouse, bon, je t'ai suivi à Bordeaux, je t'ai suivi dans la vallée de la Loire. Là, j'aimerais bien que tu me suives, j'aimerais bien explorer autre chose. Voilà.
Ok,
voilà.
Et donc là, ton désir de partir, donc ça faisait 5 ans que tu étais dans l'univers du vin, voilà. Tu commences à avoir on va dire, des connaissances assez élargies.
Tout aussi. À fait, ouais. À la fois sur le vin, mais aussi à ma capacité à commercialiser du vin. Parce que quand tu es à Bordeaux, faut être... Bon, les Bordelais, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais bon, les primeurs, ils sont, je vais pas dire prévendus, mais c'est plus un travail d'allocation, d'attribution, de quantité. T'apportes pas vraiment, en tant que commercial, une valeur ajoutée particulière. Quand t'es dans le Muscadet, là, tu sais si tu apportes une valeur ajoutée commerciale parce que personne t'attend.
Bien sûr,
ouais, et donc, ouais. Si tu réussis à faire du
on
business...
On vient convaincre, en fait.
Exactement. Ouais. Et donc là, j'ai compris que j'avais à la fois... une sensibilité de vin haut de gamme et que j'avais aussi une bonne capacité de une bonne force de conviction.
D'accord. Ouais, voilà. Ok.
Et je me suis dit, bah alors il faudrait que j'arrive à combiner les deux et que j'aille dans une région. Parce que ce que j'adorais dans la coopérative, c'est que je mettais en marché les vins que l'équipe dans laquelle je travaillais produisait. Ce qui n'est pas le cas quand tu es dans un négoce à Bordeaux, puisqu'en fait, tu achètes une allocation de temps de caisse de Grand Puy Lacoste, de Côte d'Estoing, etc. Mais finalement, enfin, ce n'est pas ton équipe qui a fait les vins. On va recevoir des caisses qu'on va renvoyer chez quelqu'un. C'est très excitant, mais il me manquait le contact avec le produit.
Oui, il faut bien différencier deux choses. Du coup, là, c'est du négoce uniquement, on achète des bouteilles de domaine
voilà.
Pour les revendre, VS, faire du négoce en tant que domaine. Qui est acheter des raisins
voilà, et les transformer.
Voilà. Et les transformer voilà.
Ouais. Donc, en fait, quand j'étais à la coopérative, ce que j'avais adoré, c'était la transformation, donc de A à Z, de la vigne jusqu'à la commercialisation. Et je trouvais ça super de faire partie de cet ensemble. Et donc, mon objectif, c'était de revenir dans l'univers du luxe, mais pas à Bordeaux parce que j'avais déjà fait, parce que je ne voulais pas justement être juste, comment dire, un intermédiaire qui fait passer une caisse à un autre. Je voulais vraiment aller dans une entreprise qui a ses vignes, qui achète des raisins, qui les vinifie, qui les élève, qui a son style, qui a sa patte, et qui après cherche à les commercialiser dans le monde entier. Parce que ce que j'aime bien, c'est défendre en fait un peu un drapeau ou des couleurs, tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui, bien sûr.
Et pas être une fois je vends ça,
on défend sa maison aussi d'une certaine manière, et pas juste le fait de commercialiser, quoi. C'est, voilà. C'est, ouais, on vient de défendre.
Parce qu'en plus, dans le vin, on dit souvent, bon voilà, il y a le terroir, etc. Machin, mais il y a beaucoup, en fait, c'est les hommes qui font le vin, qui l'influencent, le goût, le style du vin. Et donc, quand tu travailles dans une équipe, tu fais partie, en fait, un peu de ce qu'il y a également dans la bouteille ou dans le verre.
Donc, okay.
Après la Loire, je me dis, bon, je ne vais pas à Bordeaux, alors qu'est-ce que j'ai ? Bon, déjà, j'ai eu l'accord de mon épouse pour changer, déjà.
C'est bien. Pas mal.
Bon, c'était un bondier, il m'a dit, fais-moi un enfant, et puis comme ça, je pourrais faire une pause. Donc, c'est parfait, allons-y.
Ouais, signons.
Et donc, je me suis dit, voilà, où est-ce que je pourrais aller ? Et donc, j'avais repéré, pour moi, il y avait donc la Bourgogne, il y avait le Rhône plutôt septentrional,
ouais.
Et puis la Champagne.
Okay. Voilà,
c'était les trois régions que j'identifiais.
Où il y avait à la fois le luxe, voilà. À la fois la propriété potentiellement,
voilà.
Et du négoce aussi.
Exactement. Voilà. Et donc, le hasard de la vie m'a amené en Bourgogne. Voilà. Donc, j'ai commencé donc, chez Bouchard Père et Fils, William okay. Fèvre, Champagne Henriot. Donc, parce qu'à l'époque, c'était tout le... Avant que ce soit vendu à Artémis, c'était le groupe Henriot. Voilà. Et donc, j'ai eu l'opportunité en 2001 de rentrer dans ce groupe Henriot. Et j'avais la triple casquette, Champagne Henriot, Chablis William Fèvre et Bouchard Père et Fils, sur là, toute la zone Europe, alors pays scandinave, Benelux, Allemagne, etc.
Donc, responsable export, Europe, on va dire.
Exactement, okay. Exactement. Voilà, Europe or UK. Voilà, c'était ça. Alors, on était une équipe de 4-5, super équipe. C'était le tout début, en fait, de rachat par Henriot, qui avait acheté Bouchard en 96 et William Fèvre en 98, et qui avait donc réorganisé. Donc, il y avait toute une nouvelle équipe pour redynamiser en fait ces belles entreprises qui avaient des super potentiels, mais qui, comme beaucoup d'entreprises du 18e, enfin, qui sont un petit peu anciennes, parfois elles sont un peu dans des phases, tu vois, de... comment dire, pas de somnolence, mais un peu, bon, c'est un peu...
se repose sur les acquis.
Exactement, ouais. Et donc du coup, bah, il faut un peu redynamiser tout ça. Et donc j'ai eu la chance de faire partie de cette nouvelle équipe pour dynamiser ces entreprises.
Magnifique. Ok, donc beau challenge. Revaloriser des produits qui avaient déjà de la valeur, on va
tout
dire.
À fait.
C'était
ouais.
Ça.
Ouais, exactement.
Au niveau commercial notamment. Et tu es resté combien de temps là-bas ?
J'ai travaillé 6 ans là-bas.
Ouais. Ok, donc tu es resté déjà un peu plus longtemps que sur les deux prises d'expérience.
Tout à fait. Parce que j'y étais très bien. Vraiment, j'ai eu des super chefs et des super collègues. Enfin, vraiment, ça cochait toutes les cases. Et puis, eh ben, il y a eu un changement de gouvernance.
Ok.
Et là, ça m'a moins plu.
D'accord, ouais. Donc, un peu plus de désaccord.
En fait, ils ont viré mon directeur général de Bouchard Père et Fils, William Feff, qui m'avait donné ma chance et qui était un super directeur général. Et là, du coup, ça m'a cassé un peu mon estime par rapport au propriétaire du groupe. Et donc, je me suis dit, bon, s'ils virent un type comme Bernard, bah, moi aussi, un jour, ils vont me virer comme ça. Et donc, ouais. Je me suis dit, je vais aller regarder ailleurs. Pas pressé, hein, mais un jour, je suis au marché de Beaune et je fais les courses. Et puis, en fait, mon ancien directeur général, lui, était passé chez Fevelet, après avoir été viré de Bouchard.
Okay.
Et il me dit, ah, ça va, Vincent ? Je dis, ouais, ça va. Alors, ça marche, le business ? Ouais, super, tout. Bon, et puis, 2 semaines plus tard, je reçois un coup de fil pour me proposer de prendre la direction export de Fevelet.
Magnifique. Ok, très belle maison aussi.
Super.
Ok, et tu t'es éclaté là-bas, tu les as rejoints directement, donc.
Alors, parce que là aussi, il y avait une super aventure de renouvellement, puisqu'il y avait une passation, pas de propriétaire cette fois-ci, mais de génération. Donc, François Fevelet, en fait, venait de donner les rênes à son fils Erwan Fevelet.
D'accord.
Et c'était également une très belle entreprise, avec des très beaux terroirs, 124 hectares à l'époque en propriété.
Absolument hallucinant.
Créé en 1825. Enfin bon, super histoire, super domaine. Mais pareil, aussi une entreprise qui s'était un peu endormie sur ses lauriers dans les années 90, début 2000, et qui ne fonctionnait pas au plein potentiel qu'elle pouvait avoir. Et donc, quand Erwan donc, a pris les rênes, qu'il a pris les services de Bernard pour le coacher, bah là, j'ai senti qu'il y avait également de nouveau une nouvelle aventure de, comment dire, to revamp une beauté un peu ternie par le temps. Et donc, j'y suis allé et c'est exactement ça qui s'est passé.
Beau défi encore. Hein, ouais. Magnifique. Beau défi commercial, en fait, parce que le produit est là et on vient vraiment revaloriser le produit à hauteur de...
Alors, le produit est là, mais les vins ont été changés d'un point de vue stylistique.
Hein. D'accord.
Il y a vraiment eu...
On décide...
Il y avait un... Comment dire, les vins de Fevelet du père étaient très bien, mais ils avaient un style particulier, ils étaient très tanniques, ils étaient très extraits. Et du coup, c'était des vins qui étaient bons, mais il fallait vraiment être... pas patient, il fallait être super patient.
Il fallait oublier les vins, les impressions.
Or,
ce qui changeait un petit peu là dans le courant des années 2000.
Oui, et en plus, on n'a pas besoin de faire des vins qui soient hyper structurés et j'allais dire imbuvables jeunes pour qu'ils aient de la capacité de vieillissement. En fait, un très grand vin, il est bon jeune, il est bon entre deux et il est bon vieux. C'est qu'il faut savoir doser justement l'extraction, il faut savoir doser le boisé. Enfin, il y a plein d'éléments à doser pour que le vin soit à la fois déjà extrêmement plaisant jeune, mais qu'on se hante quand même qu'il y a du potentiel et qu'on se dit ça vaut la peine que j'attende encore 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Puis après, c'est beaucoup une histoire de millésime aussi. Et il faut savoir aussi adapter la vinification, l'élevage au millésime. Tous les millésimes ne sont pas des millésimes faits pour durer 50 ans. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher à extraire quelque chose qui n'y est pas.
D'accord. Voilà. Okay.
Et donc, il y avait un peu...
double changement.
Donc, il y avait vraiment cette envie de faire évoluer le style. Et Erwan est un type extrêmement ouvert, très à l'écoute. Et il avait fait d'ailleurs, avant de prendre Bernard Hervé, avant qu'il m'embauche, il avait fait le tour des marchés. Il s'était quand même rendu compte qu'il avait des commentaires qui allaient souvent dans la même direction. Et en fait, Bernard l'a aidé à franchir le pas pour se dire « je me sens autorisé » parce que c'est très compliqué pour des membres de famille, d'oser toucher. Voilà. On sent qu'ils ont toujours les ancêtres qui les regardent. D'ailleurs, dans le couloir de chez Fevelet, on voit les tableaux des, des X générations qui se sont succédés. Donc, à la fois, ça rend très fier. On se dit, waouh, on est dans une institution, quelque chose qui a plus de 200 ans d'histoire, etc. Enfin, ça rend très fier, évidemment, et c'est très stimulant et excitant. Mais ça met aussi, je peux imaginer, de la pression pour les jeunes générations qui reprennent. Et donc, pour se sentir autorisé à faire évoluer, il faut du courage, puis il faut être bien accompagné. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont recruté un très bon directeur technique, Jérôme Flousse, et qui a donc participé à cette évolution. Donc voilà, on a passé, je dirais, la troisième et la quatrième, à la fois sur le plan technique et sur le plan commercial, et ce qui s'est soldé par un grand succès.
Magnifique. Ouais. Et là encore, tu restes combien de temps
chez... Alors là, je suis resté 9 ans.
Ok, ouais, et, donc une grosse aventure.
Ouais. Et là, en fait, j'ai passé plusieurs étapes. C'est que j'ai commencé directeur export, et puis en fait, je suis passé, après quelques années, directeur commercial monde. Donc je chapeautais à la fois l'export et le marché français.
Ok.
Donc l'intégralité, en fait, de la commercialisation. Et ils ont eu la bonne idée, alors je ne me rappelle plus exactement quelle année c'était, ça devait être en 2014 ou 2015, de racheter un domaine à Chablis, le domaine Bio-Simon.
Okay.
Qui, pareil, avait une quarantaine d'hectares de grands crus, de premiers crus, qui était déjà reconnu, qui avait un bon niveau qualitatif, etc. Mais on sentait qu'on avait encore aussi du potentiel
ouais.
en s'en occupant parfaitement. Et donc, ça m'a fait, voilà, j'ai eu en fait deux aventures. J'ai à la fois Févelet le renouveau, et puis Bio-Simon aussi le renouveau, mais dans la même aventure finalement.
Ok, donc passionnant. Et du coup, si tu finis après 9 ans, ça nous ramène quand ?
Ça nous ramène à 2016.
2016, ouais. Et donc là, tu arrives chez Sanson.
Voilà, parce qu'en fait, je me suis heurté, on va dire, au plafond de verre, qui n'est pas que pour les femmes, il y a aussi un plafond de verre pour les hommes. C'est-à-dire que je souhaitais le poste au-dessus, mais vu que c'était des membres de famille et qu'il y avait 10 ans de moins que moi, ça allait être compliqué.
Ouais, il y a la réalité qui nous rattrape.
Voilà. Donc, il y avait Erwan et sa sœur Eve qui étaient à la tête de l'entreprise. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que moi, je me sentais capable aussi de prendre de telles responsabilités. Puis à l'époque, j'avais fait un petit peu un pari. C'est que la famille Févelet, en fait, le vin était une toute petite activité dans leur activité. Et en fait, c'est une famille qui a fait... sa fortune et sa réputation dans l'industrie ferroviaire.
Donc,
rien à voir avec le vin, mais c'était ça, en fait, leur gros business, c'était le ferroviaire. Ils produisaient des pièces pour Alstom, etc. Enfin,
ouais, ouais.
Les bombardiers au Canada, enfin, tous ceux qui construisent des trains. Et je me disais toujours, enfin, quand j'étais rentré chez Févelet, je me disais, bon, à un moment, Erwan, il va être vachement pris avec ces histoires de ferroviaire, avec des usines en Chine, en Inde, aux États-Unis, etc. Et donc, naturellement, il va y avoir un espace qui va se libérer. Et donc, si je travaille bien, bah, peut-être que je pourrais aller prendre cet espace. Parce que, comme tu l'as compris, j'ai toujours voulu aller vers le produit. Parce que moi, j'étais vraiment à la fin, en fait, dans la commercialisation. Mais mon ambition, c'était toujours d'aller vers l'amont, parce que je trouve que le produit est fascinant. Mais quand tu es dans le commerce, c'est vrai qu'en général, on te dit, voilà, on a produit telle quantité, ça va être tel niveau de prix. Bon, maintenant, il faut que tu te débrouilles pour trouver une bonne distribution pour nos vins et bien les valoriser, ce qui est un super job. Mais je voulais avoir plus d'impact sur l'amont, parce que je pense aussi que c'est important de se nourrir de ce que l'aval expérimente pour faire encore aussi progresser l'amont.
Bien sûr, ouais.
Et ce n'est pas qu'une affaire de technicien en viticulture ou en vinification. Il faut savoir un peu essayer d'avoir la vision à 360 degrés. Et je me disais, la meilleure façon de m'approcher du produit, c'est un jour de devenir le directeur général, parce que là, forcément, j'aurai la partie commerciale, la partie viticulture, alors pas de manière opérationnelle et maintenant, mais en tout cas, je dirigerai l'ensemble.
Tu pourras faire ce lien-là que tu souhaites entre les deux parties.
Exactement. Exactement. Et donc, j'ai vu chez Févelet, donc la limite du système, c'était qu'en fait, Erwan a vendu sa partie industrielle.
Dommage.
Alors, pas dommage pour lui, je pense que pour lui, c'était très bien. Ça lui a permis d'acheter encore quelques hectares et de renouveler, de restaurer toute sa cuverie, etc. à Nuit-Saint-Georges. Donc, ravi pour lui. Mais du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est sûr que l'horizon, en tout cas chez Févelet, c'est pas là où je deviendrai directeur général.
Bien sûr.
Et puis, au même moment, le groupe Bollinger, puisque Chanson fait partie du groupe Bollinger, cherchait une personne pour prendre la direction générale, mais pas tout de suite, pour avoir, on va dire, un an de tuilage avec l'ancien directeur général qui allait partir à la retraite. Donc c'était un peu une préparation de départ à la retraite. Et il s'avère qu'un de mes amis et anciens collègues de chez Bouchard travaillait chez Chanson. Et pendant un salon Vinexpo, j'étais allé boire j'étais allé le saluer. déguster un Pernod premier cru Cara 2 ou boire une coupe de Bollinger sur le stand du groupe Bollinger pour voir mon ami. Et puis il me dit, tiens, il faut que je te présente Gilles de Courcelles, donc le directeur général. Et puis donc on a échangé. Et puis j'ai senti qu'il me posait des questions.
Un peu ciblées.
Oui, je passe un recrutement.
Quelles sont vos ambitions?
Et une semaine plus tard, je reçois un coup de fil. Est-ce que vous pouvez passer chez Chanson? J'aimerais qu'on discute, etc. Et donc là, je suis allé chez Chanson. et on a discuté avec Gilles de Courcelles. Puis après, j'ai rencontré Étienne Bizon, le président du groupe Bollinger, etc. Ouais. Et donc, je suis rentré chez Chanson au départ comme directeur commercial. Donc, il y avait toujours le DG en place. Et puis finalement, après 9 mois, on a fait la transition.
Voilà. D'accord.
Et donc, en janvier 2017, j'ai eu l'honneur de devenir le directeur général de Chanson, qui était donc un... Alors, j'ai accompli 2 rêves.
Ah, ouais. C'est beau ça.
Quand j'étais tout jeune à Bordeaux, un de mes rêves, c'était de travailler un jour pour Bollinger.
Ok.
Parce que quand j'étais donc jeune responsable de Zone Export et que je revenais de mes tournées, j'allais voir mon directeur et puis il me demandait, alors, comment c'est passé, t'as rencontré qui? Alors je lui disais, voilà, j'ai rencontré un tel importateur dans cette région, etc. Et puis souvent, dans ces questions, c'était... Alors, quels sont leurs canaux de distribution? Quelle est la proportion en retail, en CHR, enfin, du classique? Puis souvent, ils me posaient aussi la question, et dans leur portefeuille, qu'est-ce qu'ils ont? Et donc, bah, je leur disais, alors, en vin italien, ils ont ça, en vin français, ils ont ça, dans la Loire, ils ont ça, en Champagne, ils ont ça. Puis à chaque fois que je disais, ils ont Bollinger, mon directeur export, ça lui faisait, ouais, tu vas bosser avec eux.
Okay,
je me disais, c'est quoi ce truc? Voilà. Et donc, et alors après, forcément, Champagne Boulanger, alors tu regardes, ah ouais, les James Bond, les Aston Martin, enfin, après, c'est tout un univers aussi qui fait rêver, etc. Puis après, tu vois aussi que c'est un champagne qui est un grand vin de champagne, qui n'est pas de la marque, machin, c'est vraiment un champagne qui a de la personnalité, il y a des parties pris particuliers en termes de vinification, d'élevage, d'assemblage, la part très importante du Pinot Noir, bref. Ça se distingue. J'adore les choses qui se distinguent.
Et d'ailleurs, juste petit aparté, mais on a reçu Charles Armand de Maison Bollinger qui nous a fait un podcast absolument magnifique. Donc,
si souhaitez... Charles Armand. Salut Charles Armand.
Si vous voulez l'écouter, c'est avec grand plaisir.
Ouais. Donc, voilà. Qui se débrouille super bien, qui est vraiment un super type. Et vraiment, il est, je crois, moi je suis arrivé en 2016, il est arrivé en 2017 chez Champagne Bollinger. Et donc, toute ma vie, quand il y a eu des naissances, des promotions, des changements de job, des événements, j'ai toujours fêté ça en allant acheter une bouteille de champagne Bollinger.
Incroyable.
Et pour moi, c'était un rêve, en fait. Et même peut-être même un rêve inaccessible. Et donc, quand je suis devenu directeur général de Chanson, j'ai réalisé donc 2 rêves. C'est à la fois donc, de prendre la responsabilité de directeur général et de rentrer dans le groupe, alors pas champagne Bollinger, mais dans le groupe Bollinger. Et donc, je me rappellerai toujours quand j'avais eu mes premiers entretiens avec le président du groupe et que je suis allé à Paris pour le rencontrer et que j'ai vu la plaque... Bollinger, déjà, je me disais, waouh, tu vas y arriver. Et quand j'y étais, et qu'une fois j'étais chez Champagne Bollinger pour faire une réunion avec notre importateur commun aux États-Unis, et que j'ai traversé la grille de la cour de Champagne Bollinger, où il y a marqué Champagne Bollinger
aussi, c'est magnifique.
Ça m'a fait un frisson qui revient d'ailleurs, tu vois, quand j'en parle. Et donc voilà, c'est.
Ok, donc d'où le rêve.
Voilà, 2 accomplissements.
Au moment d'arriver chez Bollinger, d'arriver dans le groupe Bollinger et à la tête de la maison Chanson. Est-ce que tu peux nous dire du coup 2 mots un petit peu de la maison Chanson?
Oui, bien sûr. Alors, donc la maison et le domaine Chanson, parce que ça, c'est toujours la grande histoire, on va dire en Bourgogne, négociant, domaine. Alors, nous, on est les deux à la fois.
Oui.
On a un superbe domaine de 43 hectares. Alors, en fait, maintenant, on a 93 hectares, mais. Je le dirai après.
On en reparlera juste après, avec grand plaisir. Donc,
historiquement, nous avions, enfin, en tout cas, quand je suis arrivé, on avait 43 hectares en Côte de Beaune, des premiers crus. Alors, on a un grand cru sur la montagne de Corton, un Corton blanc. On a des premiers crus sur Pernant-Vergelès, sur Savigny, sur Beaune, sur Chassagne, sur Centenay. Donc on n'est pas une énorme entreprise à l'époque, donc pareil parce qu'il y a des choses qui ont changé récemment, mais nous étions 35, donc c'est une petite PME, hein, on se connaît tous. On a donc des vins qui sont de la côte de Beaune, essentiellement évidemment par le domaine, mais après voilà, on achète également des raisins, des mous pour avoir une gamme un peu plus élargie, et on fait des vins aussi de la côte de Nuits, on fait des vins de Chablis, on fait des vins de la côte chalonnaise et des vins du Mâconnais. Des Bourgognes régionales.
Donc la différence, c'est la propriété est concentrée uniquement sur la côte de Beaune.
Exactement.
Et le négoce.
Ben, c'est pour compléter
la gamme.
Exactement.
Ouais. En allant chercher ça sur toutes les sous-régions, on va dire, de la Bourgogne.
Tout à fait. Voilà. Okay. Ensuite, alors on peut dire qu'on commercialise 65% à l'export, 35% en France. On ne fait quasiment pas de grande distribution. On a un client en grande distribution en France, c'est Monoprix, et sinon on ne fait pas du tout de grande distribution, ni ailleurs dans le monde. Donc on est très orienté caviste, restaurateur, et puis après, bien sûr, la vente aux particuliers par Internet, par notre caveau aussi à Beaune.
Et tu parlais, on aborde un peu la partie commerciale. Tout à l'heure, tu disais, il y a un lien entre le commercial et le stylistique. Mmh. Est-ce qu'il y a une identité des vins particulière sur la maison?
Alors les vins, ils ont évolué, je dois dire, depuis que je suis arrivé. Ils étaient très bons aussi avant, mais un peu la même problématique, si je puis dire, que j'avais déjà vécu chez Fevelay, des vins qui étaient très structurés, très extraits, et qui parfois, justement... En fait, si tu veux, les gens goûtaient nos vins et puis ils disaient « Waouh, ouais, c'est bien, c'est bon, mais il faut vraiment attendre. » Bon, alors, ça va un certain temps, mais au bout d'un moment, t'en vrai, les gens te disent « Waouh, c'est super bon et j'ai envie d'en acheter une et j'ai envie de la partager avec mes amis ce soir. »
C'est aussi ce critère de buvabilité
exactement.
Dont on parle. Ouais.
Le fait d'équilibre qui fait que les vins, tout de suite, peuvent apporter déjà beaucoup de plaisir tout en étant encore dans leur jeunesse. Et donc ça, c'est... Avant donc de faire des modifications au niveau technique, il y avait une approche qui était un petit peu dogmatique dans la façon de vinifier les vins, 100% grappe entière, systématiquement.
Ok, d'accord.
Des rendements très, 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 très bas pour concentrer au maximum, ce qui à un moment va un peu trop loin d'ailleurs, et d'un point de vue stylistique et d'un point de vue financier. Et puis également un élevage avec un boisé. En tout cas, que je trouvais perfectible. Voilà.
D'accord.
Donc,
marqué par le bois.
Et donc, des très bons vins, mais qui nécessitaient de nouveau une très grande patience et que l'on pouvait un petit peu faire du fine-tuning, du réglage, pour qu'ils soient déjà un petit peu plus plaisants, attractifs dans leur jeunesse. Alors, c'est passé par un changement d'équipe, qui est pas quelque chose d'évident à faire. Parce que donc, Chanson avait été acheté par le groupe Bollinger en 1999. Avait pris donc un conseiller technique qui est un homme d'une grande valeur, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui avait donc lui ses choix stylistiques qui étaient très affirmés et qui finalement n'étaient peut-être pas adaptés pour Chanson. Voilà. Et donc il a fallu à un moment prendre une décision et donc j'ai changé l'organisation de l'entreprise au niveau technique et j'ai mis en place deux jeunes femmes de 30 ans, une spécialisée en viticulture, une spécialisée dans la vinification et qui ont donc accompagné cette évolution. Et qui d'ailleurs rencontre un franc succès, donc je suis ravi de ce choix, qui ne fut pas facile sur le coup, mais qu'il fallait faire.
Et puis surtout, il y a un petit peu ce défi, tu me dis si je me trompe, mais on est dans le vin, donc un changement implique, on va dire, pas mal d'impact, mais à long terme.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, il faut attendre le millésime d'après, et on ne peut pas noter quelqu'un juste sur son premier millésime.
Tout à fait. Ouais.
Donc, en fait, avant d'évaluer la réussite aussi de quelque chose, ça prend aussi beaucoup de temps.
Dans le vin, en effet, beaucoup de choses, c'est le temps long.
Ouais.
Néanmoins, et comme je l'avais déjà aussi vécu une fois chez Fevelay, déjà avec des petits ajustements en termes d'élevage, en termes de date de récolte, en termes de choix, justement, de part de vendange entière, 100%, 50%, 25%, tu peux déjà faire des bonnes modifications, des bonnes évolutions et déjà voir assez rapidement, finalement, une évolution.
C'est super intéressant.
Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, pareil, on n'a pas fait un virage à 180 degrés. On a gardé les fondamentaux, puisqu'on fait toujours de la vendange entière.
Okay.
Les terroirs, c'est toujours les mêmes, évidemment. Mais... voilà, on a un peu modifié les dates de vendange, qu'on a un petit peu avancé.
Ok.
Pour la proportion de vendange entière, ça c'était le grand truc. On a toujours des vins qui sont faits 100% grappe entière, mais on a aussi d'autres terroirs où on fait que 25% ou 50%. Et au lieu de faire quelque chose de dogmatique et systématique, avec l'équipe, avec Justine et Lucie, on goûte les baies et on réfléchit pour adapter en fait le type de vinification à chaque terroir.
Ok. Est-ce que tu peux, tu vois, on a des personnes qui sont un peu plus amateurs, d'autres personnes qui sont plus, on va dire, novices. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet impact de l'égrappage ou pas?
Ok. Super. C'est un super thème. Donc, avant d'arriver chez Chanson, je ne connaissais pas la grappe entière parce que Bouchard Père et Fils à l'époque et Fevelay à l'époque éraflaient complètement, égrappaient complètement. Donc, j'étais pas du tout. Habitué à ce style. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est que quand je suis arrivé chez Chanson en 2016, et que j'ai goûté d'ailleurs avec l'ancien directeur technique, je goûte la gamme et je lui dis, waouh, il y a un truc dans les vins qui est une sensation et une aromatique qui me rappelle. Alors en plus, je lui dis, ça me rappelle quand j'ai goûté du Latage 96 de la Romanée Conti avec le portateur de Févlé à Séoul.
Ouais.
Et donc, c'est lui qui m'a expliqué donc l'impact en fait de la grappe entière, qui en effet au niveau aromatique, si c'est bien dosé, si c'est la bonne maturité, et je dis bien c'est si, et tu comprends ouais, pourquoi je dis c'est si. Quand c'est réussi, ça donne vraiment un supplément de sophistication et de complexité au vin, aussi bien en termes aromatiques, plus floral, un peu épicé, une sensation de fraîcheur aussi, mais aussi en termes de texture et de structure, ça a aussi un apport sur le vin.
D'accord.
Mais je dirais que, voilà, je suis un grand fan de la grappe entière, mais c'est comme j'aime le poivre ou le sel ou une épice, c'est pas la peine de foutre tout le pot
ouais,
dans l'assiette.
Il faut doser toujours, quoi.
Voilà. Et l'art, parce que moi, je suis pas du tout un œnologue, je fais pas du vin d'un point de vue, c'est pas moi qui le fais avec mes petits bras, etc. Mais ce que je perçois, c'est que c'est le moment où il faut savoir s'arrêter. Le moment où il faut savoir s'arrêter de chercher la maturité, et donc il faut couper. Le moment où il faut savoir s'arrêter d'extraire, quand on fait l'épigeage. Le moment où il faut savoir s'arrêter dans la proportion de grappe entière. Le moment où il faut savoir s'arrêter en termes de proportion de fût neuf. Le moment où il faut savoir s'arrêter en termes de durée d'élevage dans le fût. Et l'art, c'est d'aller le plus loin possible, mais pas trop loin.
Ouais.
Parce qu'après, justement, on passe de l'autre côté et du coup, ça devient trop dominant, cette facette dans le vin. Et là, du coup, ça casse tout l'équilibre.
Mais ce qui est complexe de manière générale, mais qui est un plus grand défi encore quand on est en Bourgogne et qu'on a des terroirs qui sont délimités au mètre près.
Voilà, tu ne peux pas faire des assemblages pour essayer d'équilibrer les choses. Tu as le Pinot Noir ou le Chardonnay, basta. Et puis en plus, après, avec aussi un impact du millésime hyper variable d'une année sur l'autre.
Bien sûr,
donc en effet, alors nous, on est très humbles. Hein. On sait qu'avec cette nouvelle équipe, on en est à nos débuts et on ne se pense pas du tout déjà arrivé, etc. Mais on est parti sur certaines pistes, on les teste, et c'est du test and learn, et puis ça, peut-être qu'on va se tromper de temps en temps, et peut-être qu'on va se dire, tiens, on aurait peut-être dû faire autrement différent, mais globalement, quand je goûte et que je présente maintenant les vins avec, qui sont faits justement par cette nouvelle équipe, avec Justine et Lucie, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est que, et ça c'est typique dans toutes les boîtes de Bourgogne, enfin en tout cas toutes celles que j'étais, le commercial n'intervient pas dans la réflexion du style des vins. Et ça, c'est quelque chose que j'ai totalement changé chez Chanson. Le directeur export, le directeur commercial France, Justine au niveau des vignes et Lucie au niveau de la cave, on goûte une fois par mois ou une fois tous les deux mois nos vins et des vins des concurrents et des vins d'autres pays, des hauts de gamme, pour nous familiariser avec ça, pour nous accoutumer, on va dire, au vin haut de gamme, qu'il soit bourguignon, des concurrents et d'autres pays, et pour échanger, et en fait, pour essayer de se mettre en phase. Et si on arrive à se phaser l'approche commerciale, l'approche vigne, l'approche cave, et puis le directeur général qui essaie un peu de faire en sorte que tout ça fonctionne correctement ensemble, je pense que là, en fait, on peut trouver justement le style qui fait mouche, qui fonctionne bien.
Voilà. Oui, il y a un petit peu deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est d'intervenir un peu comme un chef d'orchestre, en position. Chacun a un grand savoir-faire de son instrument, on va dire, de sa parcelle, de sa cave, du côté commercial aussi, qui a un vrai savoir-faire. Et toi, tu interviens pour chapeauter tout ça.
Voilà, synchroniser et créer cette... Parce que souvent, il y a une sorte de climat conflictuel entre le commerce, la vigne et la vinification dans les entreprises. Parce que bon, quand c'est pas bon, les commerciaux disent c'est pas bon, c'est pour ça que ça se vend pas. Quand ça se vend, c'est parce que le vin est bon, etc. En fait, non, c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Enfin,
ouais,
c'est un ensemble. Si la chaîne fonctionne correctement, tout l'ensemble fonctionne correctement.
Et puis pour aller au bout de ce test and learn, comme tu disais, pour aller au bout du learn, il faut aller jusqu'à la fin du produit, sa commercialisation, l'écoulement des stocks chez nos partenaires.
Les retours des gens qui les boivent, qui les dégustent, qui nous disent c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est mieux, ah ouais, ça continue. Voilà. Et ça se passe vraiment très 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 bien.
Ouais,
mais bon, c'est une super équipe, je dois dire. C'est une jeune équipe. Il y a beaucoup de personnes qui ont 2 ans, 3 ans d'ancienneté seulement dans l'entreprise, mais qui sont très, très talentueuses et qui ont envie de travailler ensemble.
Ouais, c'est génial.
Ouais. Il n'y a pas de star system aussi. Parce que dans le vin, Dans le vin, il y a beaucoup de star system. Et alors, je trouve qu'ici, un truc qui donne un mauvais goût dans le vin, c'est bien l'ego, parfois, des personnes. Donc, nous, on essaie de cultiver on incarne nos vins, mais ce n'est pas une incarnation unique. Je ne suis pas le seul qui est légitime à incarner les vins de chanson. Il y a toutes les personnes que je t'ai nommées avant, Vincent, Maxime, Justine, Lucie, tous apportent leur contribution, et c'est très important de ne pas être dans la mono-incarnation, parce que la mono-incarnation, ça isole une personne qui pense à un moment qu'elle a une sorte de pouvoir divin, et la seule à comprendre comment c'est fait du bon vin, et tous les autres, c'est des imbéciles. Et ça, je l'ai trop vu, et donc je ne veux surtout pas le reproduire en étant maintenant directeur général. Donc c'est vraiment un travail d'équipe.
Alors, soit que tu as eu une vraie patte, et aussi beaucoup de liberté, ce qui est génial.
Fabuleux.
Et rare, parfois.
Ouais, alors là, incroyable. Alors là, il faut que je rende hommage à mon groupe. Alors, ça va faire un peu le faillot, mais c'est vrai.
En espérant qu'il l'écoute.
J'ai une chance incroyable. J'ai pris les rênes de chansons et j'ai eu l'autorisation de transformer, mais vraiment en profondeur, l'entreprise. Du sol au plafond.
C'est un niveau de confiance.
Au niveau commercial, au niveau management, au niveau même transformation du modèle économique, on en parlera après. Oui, c'est phénoménal. Et alors, ils ont été extrêmement patients parce que j'ai fait tous ces changements internes au moment où, en externe, la tempête se déchaînait. Les mouvements sociaux, les gilets jaunes, la taxe Trump, le Covid. Donc quand tu transformes en interne, t'es sûr que ça va générer des turbulences, etc. Mais alors, si tu génères des turbulences en interne et qu'en externe, c'est la tempête, et je dois dire, j'ai eu quelques années très difficiles où je me suis beaucoup posé de questions et je me disais, waouh, c'est pénible parce que je prends des décisions très engageantes, très, très, très lourdes de conséquences. Et malheureusement, parce que dans le vin, on voit pas tout de suite les résultats. Ouais. En plus, deux, si le contexte n'est pas favorable, je me disais, waouh, ça va pas durer longtemps parce que ce n'est pas probant. Voilà. Et c'est la grande chance de travailler pour un groupe comme le groupe Bollinger. C'est un groupe familial. Donc, c'est X générations. Chambonnet Bollinger, ça a été fondé en 1829, si je ne me trompe pas. Et ils ont cette notion du temps. Et donc, ils m'ont laissé mener le projet jusqu'au bout. Et en 2021, le ciel s'est dégagé, on a passé ces histoires de Covid, le commerce mondial a repris, et en fait, toutes les transformations que nous avions faites, et qui n'étaient pas probantes jusque-là, eh bien, elles ont trouvé leur raison d'être, et là, c'est parti, je parlais de vague tout à l'heure, là, on était sur la vague, en position haute, et donc, on a eu deux super années, 2021 et 2022, qui nous ont donc conforté dans les choix qu'on avait faits et puis aussi dans la transformation donc, qu'on voulait mener, et on va en parler.
Oui, avec grand plaisir. Alors, tu parles de 2021,
oui.
2022 comme année absolument extraordinaire pour la reprise du commerce.
Très, très bien, oui.
On reprend l'activité, le monde s'ouvre à nouveau,
oui.
Fini le Covid, et 2023 apporte plein d'autres nouvelles pour le domaine chanson. Oui. C'est notamment pour ça aussi qu'on était trop super contents de te recevoir aujourd'hui avec une acquisition, mais je te laisse en dire plus.
Donc en effet, je ne me suis pas trompé en amenant cette bouteille, parce qu'on se dit, ouais, le type de chanson, il amène une bouteille de Château des Trois, c'est quoi ?
C'est pas la même étiquette en plus.
Alors en fait, oui, c'est la nouvelle acquisition qu'on a faite en 2023. On a eu l'opportunité d'acheter ce domaine qui exploite 50 hectares en Côte-Chalonnaise. Okay. Principalement sur la commune de Mercurey.
50 hectares, sachant que c'est énorme.
Nous avions 43 hectares, historiquement, hein, donc qui ont été un domaine de 43 hectares qui a été construit entre 1750 et aujourd'hui.
Ouais.
Et puis en une année, on le fait passer de 43 hectares à 93.
C'est efficace.
Super, tout à fait. Tout à fait. Franchement, c'était pour nous... quand on nous a parlé de ce dossier, c'était, enfin, mon boss Étienne Bizot m'a appelé. Enfin, il m'a mis un SMS. Il m'a dit, Vincent, j'ai un ami banquier qui m'a parlé qu'il y aurait un domaine à vendre en Côte-Chalonnaise, 50 hectares. Ça nous intéresserait. Et je lui ai dit, Étienne, c'est extraordinaire, c'est inespéré. Parce que ce n'est pas un hasard, tout ça. Quand on était au plus fort de la crise en 2020,
ouais.
On a fait tout un travail en fait sur notre stratégie parce qu'on se rendait compte que le modèle économique de chanson, comme le modèle économique d'ailleurs de beaucoup de nos concurrents, était mis à mal par un déséquilibre offre-demande qui allait devenir chronique. Et le réchauffement climatique en est une des raisons, c'est-à-dire que les récoltes sont de plus en plus petites en Bourgogne.
Donc les rendements plus faibles, voilà. Donc moins de bouteilles.
Voilà. Le dérèglement climatique, il a créé des incidents climatiques plus fréquents, comme la grêle, le gel aussi, et puis le stress hydrique, le manque d'eau, qui a forcément moins d'eau, moins de jus, moins de vin. Et au même moment, donc dans ces 10 dernières années, la demande pour la Bourgogne n'a jamais été aussi forte. C'est la région la plus sexy en France pour le vin.
Bon, au monde, presque.
Ouais, alors après ça va faire français qui est un peu arrogant, donc c'est pour ça que je veux pas dire, mais c'est vrai, c'est quand même la région la plus sexy dans le monde.
À l'export aussi, ouais. Il y a énormément de succès, quoi. On n'est pas que sur du marché local, quoi.
Alors qu'il y a 23 ans, quand j'ai commencé chez Bouchard, c'était considéré comme une région un peu has-been, poussiéreuse. Et je me souviens, quand j'allais voir les importateurs, quand j'étais avec Bouchard, ils me disaient « Ouais, mais ouais, regardez ce que font les gars du Nouveau Monde, les Bordelais, les Italiens, vous avec vos étiquettes antédiluviennes, etc., le style des vins, gna gna gna. » Bref, vraiment, on avait l'impression d'être les derniers des derniers. Et en 20 ans, c'est devenu la région la plus sexy dans le monde du vin, quoi.
Voilà. C'est incroyable. Ouais. Donc c'est un côté cyclique, au final. Parce qu'elle l'a déjà été, elle le redevient.
Tout à fait. De toute façon, en effet, dans le vin, à mon avis, c'est toujours cyclique. Donc, il faut se méfier aussi. Parce qu'il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, depuis une quinzaine d'années, on est tout le temps en croix. En fait, depuis Lehman Brothers, donc depuis 2009, on est constamment en augmentation de chiffre d'affaires, etc. Donc, okay. La demande a cessé d'augmenter. Il y a eu l'accident Lehman Brothers et après, tout ça s'est remonté. Okay. Mais donc, ça veut dire que ça peut réarriver, enfin, arriver nouveau. Je veux dire, une crise financière mondiale, ça peut remettre les choses, à mon avis. Ouais. Donc, voilà, faut avoir ça toujours à l'esprit.
Ouais.
Rien n'est acquis. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que le dérèglement climatique est combiné avec cette demande mondiale qu'on n'arrive pas à tarir sur les vins de Bourgogne, ça crée une énorme tension sur, on peut dire, la matière première, le raisin, et qui dit déséquilibre entre l'offre et la demande, dit en général inflation au niveau des prix. Donc les consommateurs, ils le voient bien, hein, tous ceux qui vous écoutent, ils se rendent bien compte que les prix des vins ont fortement augmenté.
Ouais, bien sûr.
Mais ce qu'ils ne savent pas, peut-être, c'est que nous, le prix des raisins et des moûts, il n'a pas augmenté de 10, 15, 20, 30... 40%, il a augmenté de 80, 90, 100, 120%. Il y a des appellations entre le millésime 2020 et 2021 qui ont plus que doublé.
Incroyable.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Et donc là, ça a deux conséquences, c'est-à-dire pour le négoce et pour l'achat aussi, je suppose, de parcelles.
Ah bah oui, parce qu'en général, tout est à l'avenant. Donc pour ça, pour dire qu'on sentait que cette activité de négociant allait devenir peut-être un peu plus à risque d'un point de vue rentabilité et d'un point de vue économique. Et donc on s'est dit, bon, on a de la chance, on a déjà quand même 43 hectares, c'est extraordinaire, et il faut que l'on modifie notre modèle économique, et au lieu d'être 25% en vin de domaine, 75% en vin de négoce, essayons, peut-être pas d'inverser la balance, mais d'équilibrer. Mmh. Voilà. Donc, essayons d'être déjà à 50-50 et nous verrons bien l'intérêt que ça a sur le plan économique. Donc, ça, l'intérêt, c'est que tu maîtrises l'approvisionnement, tu sais ce que tu as. Tu maîtrises les coûts, même si les coûts sont aussi tributaires de la météo, parce que forcément, quand tu fais une demi-récolte comme en 21, tu as la même masse salariale, tu as les mêmes frais, ouais. Donc le prix de revient, il change aussi. Hein, donc,
ouais.
Mais bon, peut-être plus maîtrisable quand même. Et donc, pour une pérennité à long terme, on s'est dit, c'est ça la bonne formule. Et on a rédigé un plan stratégique dans lequel j'étais pas tout seul. Hein. Il y avait également des personnes du groupe Bollinger, il y avait même des importateurs ou des filiales de distribution qui étaient aussi impliquées. Et donc on a rédigé ce plan stratégique qui s'appelait, parce que nous l'avons réalisé totalement en 2 ans, qui s'appelait le plan Harmonie. Et Harmonie, c'était ça, c'était que les choses travaillent de manière harmonieuse, qu'on arrive à trouver un équilibre qui fait que le négoce, le domaine, nos distributeurs, on ait un modèle qui soit source de succès pour nous, comme pour nos distributeurs et comme pour les actionnaires aussi, etc.
Donc c'est le fameux test and learn, mais sur une autre échelle, quoi.
Oui, voilà, exactement. Et, Et donc, dans ce plan stratégique, il y avait plusieurs axes. Et le dernier axe, c'était faire l'acquisition de 40 hectares en Mâconnais ou en Côte-Chalonnaise. Ouais. Mais franchement, quand j'avais écrit la phrase et que je la présentais en conseil d'administration, c'est vrai, c'était extraordinaire, l'idée. Mais je me disais, et je le disais d'ailleurs honnêtement, on va pas rentrer dans une boutique au coin de la rue et tiens, je vais prendre 40 hectares de Mâconnais.
Ça se vend pas tous les jours.
Non. Et donc là, on se dit, bon, bah là, on est parti pour 10 ans, 15 ans, on va acheter un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et après, voilà, 10 ans, on va réussir à faire à peu près un patchwork plus ou moins cohérent. Donc c'était extrêmement, c'était très ambitieux et même un peu, quasiment impossible à réaliser. Enfin, 40 ou 50, franchement, c'était impossible. Franchement, c'était impossible. Mais bon, comme quoi, bah si.
Oui, voilà. Et justement, du coup, on en vient à cette acquisition en 2023.
Alors, ça a commencé en 2022, pile un an d'ailleurs. On avait fait notre première visite du château des Troyes il y a un an. C'était un domaine qui appartenait avant à une famille de Mercurey depuis X générations. Je crois que les premières traces de ce domaine, ça date de 1720. Et qui avait été racheté il y a 5 ans par des investisseurs. Ils étaient 8 personnes qui étaient plutôt profil banque et qui étaient, je pense, passionnés de vin et qui se disaient, tiens, on va mettre quelques sous, on va acheter un domaine en Côte-Chalonnaise, ce qu'ils ont fait. Et après 5 ans, je pense qu'ils ont réalisé, alors les pauvres, c'est vrai qu'ils se sont pris les millésimes 2020-2021 qui ont été portions congrues. Et justement, le modèle économique, même pour un domaine, mais quand tu perds la moitié de ta récolte, quand tu viens d'acheter... Mmh. Bon, bref, enfin, c'était très dur pour eux. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas aussi peut-être le temps à consacrer, parce que ce sont tous des personnes qui ont des jobs très prenants par ailleurs. Et je pense qu'ils se sont dit à un moment, bon, allez, on va revendre. Voilà. Et donc, voilà, ça c'était l'occasion pour nous.
C'est incroyable, parce que au-delà de récupérer 50 hectares, c'est 50 hectares d'un seul domaine.
Voilà, ouais.
C'est doublement exceptionnel. Ouais. Vous n'avez pas fait deux acquisitions, trois acquisitions, non, c'est une seule.
Une seule. Et tu vois, j'y étais mardi, j'ai sillonné presque toutes les parcelles de Mercurey. Donc j'ai sillonné 32 hectares mardi, toute une journée. Et on va refaire la même chose la semaine prochaine avec ma chef de culture, Justine. Parce que c'est la fête de la fleur, donc c'est la fête, puisqu'il y a beaucoup de fleurs, et donc il va y avoir beaucoup de fruits, donc tant mieux. Mais donc on fait cette tournée, pas tout le temps, mais là c'est un moment un peu critique, donc il fallait le faire. Et en une journée, voilà, j'ai pu faire 30 hectares, et qui se trouvent finalement tous dans un périmètre de 1 km autour du domaine en lui-même.
Exceptionnel. Ouais, donc, en plus, assez regroupé.
Donc c'est fabuleux. Fabuleux. Bon, alors, il y a quand même des côtés moins fabuleux. Hein. Faut pas non plus être trop. C'est pas tout rose non plus. Comme beaucoup de domaines et comme beaucoup de vignes en Bourgogne, le dérèglement climatique a aussi des effets sur le dépérissement des vignes. Il y a des plants de vignes qui ont été sélectionnés il y a 30-40 ans, qui étaient des choix judicieux peut-être à l'époque, mais qui s'avèrent ne pas être finalement des bons choix par rapport à cette évolution du climat. Et donc il y a un taux de mortalité en Bourgogne qui est assez élevé, j'ai plus exactement le pourcentage en tête, mais ça veut dire qu'il faut renouveler son vignoble. Et donc nous, il y a quand même un gros travail justement pour remettre toutes ces vignes à l'optimum. Hein. Donc on a un plan d'arrachage, replantation qui va se faire sur 10-15 ans. Et puis en plus à ça, on va ajouter aussi la certification bio, parce que pour l'instant, c'est un domaine qui est HVE. Et nous, l'ancienne partie Chanson dans la Côte de Beaune, nous sommes en troisième année de conversion, on va être certifié en 2024. Et donc ce domaine-là, on va commencer ce process, on va commencer dans 2-3 ans. On ne veut pas trop brusquer parce que justement, il y a le vignoble, il est un peu fragile. Donc, il faut déjà qu'on le maîtrise bien, on va dire, en HVE, le comprendre exactement. Et puis, quand on se sentira suffisamment sûr de nous, bah là, on se lancera dans la phase de conversion.
Ok, c'est super intéressant. Je te propose même qu'on passe... En fait, on a la chance d'avoir une bouteille avec nous. Ouais. Si tu nous parles éventuellement de cette bouteille.
Donc, ça m'amusait d'amener cette bouteille. Parce que, en fait, j'avais été contacté... pendant Vinexpo Paris.
Oui, voilà. Exactement.
Et rentré, voilà. Et donc je t'avais fait un peu poireauter.
Oui. Tu veux dire, alors. J'adore. Pas maintenant. Voilà. On se recontacte mi-avril. Ouais,
parce que je me disais, c'est quand même con d'y aller maintenant, alors que ça se trouve, dans 2-3 mois, je vais avoir un truc incroyable à raconter. Voilà. Donc, merci, tu as été patient. Et ça valait la peine.
Oui, oui, bah,
et donc, très content. Et donc, c'est vrai que ce matin, quand j'ai quitté mon domicile et que je suis allé chercher une bouteille que j'avais dans ma cave, je me suis posé la question, est-ce que j'amène une bouteille de chanson, parce que c'est quand même le thème. Et je me suis dit, non, amène une bouteille de Château Détroit. C'est le grand événement cette année, 50 hectares. En plus, là, c'est une super belle cuvée. C'est ouais. Le Clos Lévesque. C'est un premier cru. C'est le vin emblématique d'ailleurs de ce domaine de Château Détroit. On a 6 hectares sur une superficie totale qui est d'un peu plus de 20 hectares. Donc, on est un acteur sérieux de cette appellation, voilà, qui est un des premiers crus les plus réputés de Mercurey. Et puis, je voulais amener aussi ce vin parce que c'est un millésime 2021. Donc, c'est un millésime qui n'est pas trop dans l'extraction et la concentration. Il y a beaucoup de finesse, il y a une belle acidité, une belle fraîcheur. Donc, c'est parfait avec ces jours très chauds. On l'a mis un petit peu au frigo avant qu'il descende un petit peu en température. Et du coup, ben là, voilà, on a un vin qui est plein de fruits extrêmement rafraîchissants et très, très équilibré en bouche, comme on va pouvoir le constater.
Oui, l'avantage de ces années un peu moins solaires, c'est d'avoir ce côté un peu plus fruit, un peu plus frais, un peu plus gourmand, qui est appréciable.
Exactement.
Sur des moments où il fait chaud aussi.
Voilà.
Ce qui est essentiel.
Et selon les plats aussi qu'on prépare, évidemment, ça va être moins un vin. Ça va être moins sur un plat en sauce, mais plus voilà, sur des grillades, des choses un peu plus simples. Même du poisson, ça peut aussi s'accommoder. Donc là, on est vraiment typique sur les arômes framboises, mûres, qui sont très typiques de ce genre de vin. On a un petit côté un peu poivré, un peu épicé. En bouche, il y a une bonne présence en bouche. Des tanins, mais pas agressifs, pas astringents. Mais on sent qu'il y a quand même une structure, exactement. Donc ça, c'est des vins, comme on peut le voir, on peut les boire jeunes.
Ouais.
Puisqu'on est qu'en 2023 et on peut déjà ouvrir avec grand plaisir.
Je peux le dire, ça boit très bien.
De, exactement.
Avec modération.
Oui. Qu'est-ce que je voulais dire et, on voit aussi qu'on peut le garder 5-6 ans sur ce millésime, même peut-être 10 ans sans problème. Alors, c'est vrai que là, on profite plus des arômes primaires, donc on est évidemment plus sur le fruit, et puis la note un peu grillée, épicée, poivrée. Et puis, en vieillissant, vont se développer les arômes de sous-bois, de champignons, de cuir. Donc voilà. Après, ça dépend aussi des goûts. Hein. On n'est pas obligé de boire que des vieux vins ou que des jeunes vins.
Bien sûr, ouais,
l'intérêt, c'est même de boire le même vin à des stades différents, parce que j'ai toujours... Hein, et parce que aussi, comme tu vois, j'aime bien vendre du vin. N'achetez pas qu'une bouteille, achetez-en 6 et vous l'ouvrez à des moments différents pour voir l'évolution.
Non, c'est vrai que c'est vrai. Incroyable. Il y a un vrai intérêt à voir le vin évoluer pour le comprendre aussi.
Et le boire avec les mêmes personnes avec lesquelles on avait bu 4 ans ou 5 ans. Moi, j'ai un très bon copain qui habite à Nantes, qui est passionné de vin, qui aussi parfois travaille un peu comme journaliste dans le monde du vin, Aymeric de Vasselot. Et on aime bien regoûter des vins qu'on avait déjà goûtés ensemble à une autre époque.
C'est génial.
Et par exemple, notamment, un producteur de Mercurey qu'on adore, qui s'appelle Raquier, donc je fais même de la pub aussi pour les concurrents. Et je conseille aussi voilà, fortement ce domaine, François Raquier, qui pour moi... est un peu une source d'inspiration, voire un point à atteindre.
Oui, bien sûr, ouais, c'est génial de s'inspirer un petit peu, de regarder, de savoir reconnaître aussi ce qui est bien fait ailleurs.
Tout à fait.
J'ai quelque chose qui éveille un peu ma curiosité. Dans l'acquisition de vignes, il y a un côté, le nombre d'hectares, la qualité de la vigne, etc. Quelle est la part de la dégustation? Parce que il y a ce qui a déjà été fait, ce qu'on peut faire aussi, comme tu disais. Donc, on peut changer la pâte, on peut produire quelque chose de différent, grâce à la vinification notamment.
Exactement.
Quelle est cette part un peu de dégustation, d'arriver au domaine, d'aller déguster des vins, se faire une idée, c'est quoi un peu
Alors c'est très bien ce que tu introduis là comme concept, c'est... Souvent, les personnes pensent que terroir, c'est la topographie, la pédologie, c'est-à-dire, c'est pas un gros mot, la pédologie, c'est la composition du sol et le climat. Mais dans le concept de terroir, il y a en effet ces éléments-là, mais il y a aussi l'homme, ou la femme, les personnes qui interagissent avec la vigne et qui interagissent avec le vin pendant le process de vinification et d'élevage. Et tu te rends compte que Oui, c'est vrai, un fruit à un endroit va avoir certaines caractéristiques qui vont se reproduire année après année, mais tu te rends compte aussi que l'homme ou la femme qui s'occupe des vignes et qui fait la vigne, ça peut avoir aussi un impact très important sur le style du vin.
La preuve au domaine Chanson,
Ouais, bah,
comme
voilà,
tu disais tout
c'est
à l'heure.
exactement, exactement. Voilà. Et alors, là, c'est très amusant parce que ce vin, je vais le connaître dans trois interprétations dans ma vie.
Explique-moi.
Donc maintenant, Chanson est propriétaire, on va avoir notre interprétation de cette parcelle bien spécifique de
Bien
6
sûr.
hectares. Avant, c'était l'interprétation des précédents propriétaires, et c'est ce qu'on goûte maintenant, et qui est très bon
Ouais.
en effet. Donc déjà aussi, c'est très prometteur, parce que tu dis, bon,
Bon.
les types avant faisaient déjà quelque chose d'excellent, bah, on va tâcher de faire aussi bien, voire encore mieux. Et donc c'est hyper stimulant, et c'est très rassurant en effet quand tu achètes un domaine,
Bien
et tu
sûr.
dis, ah oui, je vois que le potentiel est là, on peut déjà faire quelque chose de très bien. Mais alors le truc le plus marrant, c'est que quand j'ai commencé à travailler chez Bouchard Père et Fils, dans ma gamme, il y avait un Mercurey Premier Cru Clos Lévêque de Bouchard Père et Fils, et en fait, les fruits étaient achetés par Bouchard à ce domaine bien
Incroyable.
spécifique.
Ok.
Donc,
Donc il y a une
tu vois,
histoire un petit peu,
il y a des trucs, tu te
il y
dis,
a pas
bon, il y a
mal de
des
boucles.
signes.
C'est marrant parce que du coup, il y a une espèce d'attachement à ce groupe, on va dire, Bollinger.
Oui.
Une boucle qui revient à chaque fois
Ouais.
dans ton
Ah
histoire. Ouais,
bah,
c'est assez chouette.
Bouchard m'avait donné l'opportunité de rentrer en Bourgogne, qui pour moi donc a été le début d'une carrière quand même pas mal, parce que pour un type qui n'est pas issu du monde du vin, qui n'est pas d'une famille du vin, etc., j'ai réussi à prendre des responsabilités sympathiques.
Oui,
Alors
bien
c'est vrai
sûr.
qu'en plus ce groupe m'a encore plus donné, enfin ça m'a accéléré énormément. Donc vraiment super.
Ouais, mo très modestement, on peut dire un parcours pas mal.
Ça va, ça va. C'est pas fini. C'est
Bah,
pas
bien
fini.
sûr, bien sûr.
Non, là, je dis pas fini parce que finalement, ça fait que 5 ans. Là, on a entamé beaucoup de transformations, d'évolutions. Mais comme je dis toujours, la performance, c'est durer.
Ouais.
Le changement, c'est très bien, mais il faut l'assumer sur la longueur. Et donc maintenant, pour moi, mon grand challenge, en plus d'intégrer le Château d'Étroit dans notre pôle bourguignon, c'est de faire en sorte qu'on se maintienne toujours bah, au plus haut niveau possible.
Non, c'est vraiment super intéressant. Tu parlais un petit peu des problématiques environnementales, du dérèglement climatique. Tu es le premier à évoquer quelque chose dans le podcast, qui est la sélection des vignes.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le fait de dire, bah voilà, avec le dérèglement climatique, qu'il y a des vignes qui meurent, qu'on doit remplacer. Comment est-ce que ça se passe, cette sélection de vignes?
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'avec ce dérèglement, ça fonctionne plus? C'est un sujet que je pense qui est
Alors,
très très long,
oui.
mais...
Alors bon, moi, je ne suis pas un super spécialiste dans le détail, parce que je ne suis pas ingénieur agro, mais
Bien sûr.
forcément j'y suis confronté parce qu'il y a des décisions à prendre. Mais je vais juste prendre l'illustration du domaine Chanson. Donc, dans tout ce qui a été replanté il y a 30-40 ans, il y avait un clone, dont je ne me rappelle plus, il a un nom de code 1164, je ne sais plus quoi,
Ouais.
qui à l'époque avait été sélectionné parce que justement c'était un clone qui allait produire des vins très fins, très élégants, etc. Donc c'était des très bonnes raisons de le sélectionner. Mais voilà, il a été planté à une époque où le climat n'était pas le même qu'aujourd'hui et il s'avère malheureusement qu'il ne supporte pas du tout ces conditions de sécheresse.
D'accord, ok.
Donc, ça pose une grosse. Enfin, non, il faut plus poser de questions.
Oui,
C'est
c'est fini.
il faut le remplacer.
Ouais.
Mais tu t'imagines bien que quand tu dis, bon, on remplace, c'est une décision extrêmement difficile à prendre parce que c'est pas du jour au lendemain où tu vas reproduire. Hein. Tu vas arracher. Normalement, il faut un temps de repos aussi pour la terre.
Ouais.
Il faut replanter. Quand tu replantes, déjà légalement, tu perds l'appellation pendant 4 ans.
Ah, pendant 4 ans.
Voilà. Et puis après, même de toute façon, ton pied de vigne, ça va mettre 8 ans avant qu'il arrive à un niveau qualité, rendement, on va dire vraiment correct.
Valorisable
Voilà,
par
ouais,
rapport à une appellation aussi
exactement.
prestigieuse qu'un Mercurey
Et,
Premier Cru, par
exactement,
exemple.
exactement.
Ouais.
Et donc, il faut être malin et il faut bien prendre des bonnes décisions. Et ça, bah, justement, j'ai ma chef de culture qui fait tout un planning en fait sur 10 ans, 15 ans. Pour qu'on arrive à renouveler, mais sans qu'il y ait un impact non plus trop important sur notre production totale, parce qu'il y a des enjeux économiques qu'il faut savoir préserver. Et qu'est-ce qu'on replante? Et là, du coup, bah, c'est elle qui est la spécialiste et qui fait des choix de plants qui sont censés justement bah, être plus
Résister,
adaptés, en
ouais.
effet. Et pour l'instant, donc nous, on fait toujours évidemment du Pinot Noir et du Chardonnay, mais se pose même la question, je lis de temps en temps des articles où j'entends des échanges, où d'ailleurs se pose même peut-être la question, est-ce qu'un jour, ce sera peut-être autre chose que du Pinot Noir et du Chardonnay qui sera planté en Bourgogne. Alors, on n'y est pas encore maintenant, mais ça se teste et les gens y pensent. Ouais.
Et c'est quoi qu'on...
Alors, il y a à la fois des cépages qu'on connaît déjà, type Syrah, des choses comme ça. Mais il y a aussi, ils essaient de retrouver des cépages anciens. Alors là, vraiment, je ne comprends pas pourquoi les cépages anciens, j'avoue, il faut que je me documente là-dessus, mais ils recherchent des très anciens cépages à remettre au goût du jour. Mais je vois pourquoi des très anciens cépages qui n'étaient pas justement dans une phase où il y avait du dérèglement climatique, ou en tout cas du réchauffement climatique, pourquoi ils seraient tout d'un coup mieux adaptés maintenant ? Parce qu'à l'époque, finalement, ils ont disparu, parce que qualitativement, peut-être, ils n'étaient pas non plus très satisfaisants. Donc j'avoue, mon ignorance, il faut étudier. Bon, de toute façon, il ne faut pas se précipiter, les choses se font dans le temps long. Et c'est bon, le vignoble bourguignon ne va pas mourir du jour au lendemain, mais il y a un sujet.
Non, c'est incroyable, parce que vu qu'il y a du temps long, l'anticipation doit être beaucoup plus grande. Tu vois, si tu es sur un cycle de 10-15 ans.
Ouais, il faut voir à 10 ans dans le monde.
Et puis tu vois, dans 10-15 ans, mais.
Et tu peux te tromper.
Tu peux te tromper. Et en plus de ça, il faut que ça soit valable, pas que pour les 10-15 prochaines années,
il faut que ça soit valable pour les 30, 40, 50. Ouais. Exactement.
Il y a un vrai défi.
Un vrai défi. Et puis ce qui, du coup, aussi doit faire cultiver une forme d'humilité, parce que souvent, il y a un peu aussi des sortes de religions qui se mettent en place avec des défenseurs de ça, des défenseurs de ci. Un côté assez même extrême, je trouve, dans le monde du vin, parfois, par rapport à des positions... à la limite, chacun fait comme il le sent. Hein. C'est pas la peine de vouloir forcément convertir les autres. Hein. Moi, je veux dire, si nous, on prend nos décisions, on observe évidemment ce que font les autres, et après, on se forge notre intime conviction, sachant qu'on peut pas avoir de certitude. C'est très dangereux, les certitudes.
Bien sûr.
Ouais. Et après, forcément, il y a une prise d'un peu de risque. Mais ça fait partie du business.
Oui, ça en est obligé, de toute façon.
Ouais, exactement. Ouais.
Écoute, on a la chance d'avoir comme partenaire le Nez du Vin, que tu connais sûrement.
Oui, tout à fait, oui.
Bon, le Nez du Vin, c'est 54 arômes synthétisés pour essayer de se familiariser justement avec la dégustation. Tu parlais de quelques arômes tout à l'heure, justement, dans le vin.
Mm-hmm.
C'est un super moyen de s'entraîner, à les retrouver, et surtout, pas seulement les retrouver, mais à les nommer, puisque le plus dur, c'est pas forcément de te dire « je connais ».
C'est très difficile.
Mais comment ça s'appelle aussi, quoi. J'en ai sélectionné 3. Tu vas en sélectionner 2 parmi ces 3-là, et puis je vais te laisser tout simplement les sentir.
Ces deux-là.
Hop, c'est parfait. Mais je t'en prie, vas-y, tu peux les ouvrir, les sentir, et moi, en attendant, je vais en profiter pour déguster un petit peu plus du fameux Clos Lévêque.
Alors ça, c'est champignon de Paris.
Chapeau, c'est exactement ça.
Cerise.
Chapeau, bah. Est-ce que tu veux t'aventurer sur le troisième ou sur une grande lancée ou...
Comme Björn Borg, il faut savoir s'arrêter au top.
Comme, en fait, comme l'extraction, comme tout le reste. Eh bien, écoute, super, je te remercie. En fait, j'ai trouvé ça absolument génial, cet échange, parce que...
Moi aussi, merci.
On a évoqué tous les sujets qui nous sont importants. J'ai peut-être un dernier petit sujet, c'est un peu les jeunes et le vin.
Et si tu permets, j'aimerais aussi parler du handicap dans le monde du travail et des femmes.
Oui. Alors on fait une petite parenthèse là-dessus, vas-y, je t'en prie.
Parce qu'on en avait parlé un petit peu avant, chez Chanson, on a la place de la femme est très importante. On a plus de managers femmes maintenant et plus d'ouvriers femmes aussi. Enfin, bref, en fait, on est une majorité de femmes dans l'entreprise. Ce n'était pas une volonté, je n'ai pas fait ça pour du marketing, etc. Mais c'est le hasard qui a fait qu'en fait, beaucoup de femmes ont postulé pour ce nouveau projet de chanson. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, j'ai été très bien formé par mon épouse qui est magistrate et qui m'a toujours fait comprendre que les femmes veulent travailler, parce que... Étant de famille fils d'officier avec maman au foyer, j'étais pas du tout dans cette culture.
Oui, parce qu'il faut qu'elle suive le mari.
Voilà, exactement, exactement. Et donc, ça a toujours été quelque chose que ma femme a fait découvrir, cette place de la femme dans la société. Et aussi où je me disais que si un jour j'étais dirigeant, je ferais en sorte que ça puisse vraiment se développer de manière tout à fait naturelle, ni forcer non plus la chose, le trait, et ne pas le faire avec des fins de communication, le faire vraiment avec un impact sur la société. Voilà. Et puis, je te parlais du handicap dans le monde du travail, parce que quand on a fait notre travail sur la responsabilité sociétale des entreprises, lorsqu'on s'est réunis à 35, et on s'est dit, bon, alors, bon, le bien-être des salariés au travail, très bien, ok, super, l'impact sur l'environnement, très bien, on va faire notre bilan carbone, on va se certifier bio, on prend tout ça en compte, super. Et puis, il y avait le troisième axe, qui était donc notre impact sur la société, en tant que société qui veut avoir un impact positif sur la cité, voilà. Et donc, on s'était concerté. Il n'y avait pas beaucoup d'idées, pour être très honnête. Et puis, à un moment, moi, j'ai dit que j'avais une idée, mais que je ne voulais pas l'imposer. Et c'était justement sur le handicap dans le monde du travail. Parce que j'avais été contacté par des personnes qui vont ouvrir un café joyeux à Dijon. Je ne sais pas si tu connais le...
Oui, bien sûr.
Et donc, ils cherchaient des partenaires. Et donc, j'avais été invité à une soirée par des copains dans mon village. Et ils nous ont présenté ça. Et j'avais trouvé l'initiative extraordinaire. Et pourtant, je ne suis pas du tout touché par ce sujet.
Personnellement, il n'y a pas de personne dans ton entourage.
Et du coup, je suis allé revoir, mais c'est rien. Moi, on a un peu du mal à trouver notre axe RSE. Franchement, j'ai trouvé un truc super. En plus, voilà, c'est pas du tout. Je n'oriente pas, je ne veux pas par rapport à des considérations personnelles, etc. Mais je vous disais, ça, c'est un beau projet. D'autant plus que, sans le savoir, on le faisait déjà, puisqu'on fait travailler dans la vigne des sociétés qui emploient des personnes à handicap.
D'accord.
Et donc, on s'est dit, bon, alors, on fait déjà travailler des personnes avec du handicap par les sous-traitants au niveau de la vigne. On va sponsoriser cette ouverture du Café Joyeux à Dijon. Et on s'est dit, ben maintenant, en fait, la prochaine étape, c'est d'avoir des personnes à handicap dans notre équipe. Et ce qui est le cas.
Magnifique.
Je voulais aussi en parler parce qu'une entreprise, c'est pas que du vin, c'est aussi une ambiance, un état d'esprit. Si on veut que ça marche bien, il faut qu'il y ait un sentiment de fédération. Et c'est par ce genre de choses qu'on arrive à fédérer en fait une équipe.
Et donc on en vient aussi à ce côté jeune.
Alors les jeunes, oui.
Parce que c'est pas que en externe, c'est comment on s'adresse aux jeunes, mais aussi en interne.
Tout à fait. Voilà. Donc moi je suis le vieux de la bande. Donc j'ai 52 ans et je suis entouré de managers qui ont entre 29 et 34 ans.
Ok. Voilà. Donc équipe relativement jeune.
Directeur export, directeur France, responsable vigne, responsable cave, responsable administratif financier, ils ont tous entre 29 et 34 ans.
Génial. Ouais. Donc c'est super intéressant d'être stimulé par ça.
Super, ouais.
Et d'un point de vue peut-être un petit peu plus marketing ou commercial, c'est un défi aujourd'hui qu'on a, les jeunes, en tout cas en France, parce que c'est pas forcément le cas dans tous les pays. Je sais pas si c'est un désintérêt, mais il y a une partie une plus grosse partie qui consomme moins de vin. Mmh. Comment est-ce que, soit à travers le domaine chanson, mais de manière générale, tu vois ça
Alors, ce que je vois déjà, c'est que ce qui est bien, c'est que les jeunes deviennent vieux. Donc, de toute façon, malheureusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai expliqué quand je parlais de mon parcours. Moi, quand j'ai commencé à chercher mon travail, quand j'avais 24-25 ans en sortant de l'armée, je buvais pas de vin.
Oui.
Je buvais de la bière, je buvais des whisky coca, des gin tonic en soirée. Le vin, comme je disais, c'était mon père qui faisait tourner son vin dans le verre. Il me disait, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, il y a. À un moment dans sa vie, on est exposé au vin, de manière positive, hein, je veux dire. Ça arrive par des copains, ça arrive par un mentor, ça arrive par des collègues de bureau. Et puis, si ça ne plaît pas à tout le monde, je dirais, c'est pas grave. Le but dans la vie, c'est pas de plaire à tout le monde. De toute façon, du vin, on va en produire de moins en moins, puisqu'on l'a vu avec le dérèglement climatique, ça pose ce problème. Et que les gens en consomment moins, mais mieux, moi, ça ne me pose pas de problème particulier.
Ouais,
hein, faut quand même se rappeler qu'à une époque, les gens, ils buvaient du vin comme de l'eau.
Ouais, hein. Ouais.
J'ai connu, alors ça fait vraiment vieux schnock, mais quand j'ai commencé chez Bouchard, on commençait juste à dire, pendant les vendanges, on ne sert plus de vin pendant la journée pour que les gens s'hydratent. On va passer au jus d'orange et à l'eau.
Waouh.
Ouais.
Okay.
Waouh. Et c'était une révolution.
On était déjà dans les années 2000, donc voilà. C'était il n'y a pas longtemps.
Et ça, de toute façon, la consommation de vin à forte dose, c'est faut pas, quoi. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'hygiène, c'est pas bon pour l'accidentologie, etc. Donc, moi, je trouve que les jeunes, en plus, moi, j'aime pas ce côté jeune, vieux. Pour moi, c'est pas vraiment un débat. Je crois que. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on veut chercher des sensations, on veut trouver des sources de plaisir, d'intérêt, de satisfaction. Le vin, ça sera quand même toujours lié à la gastronomie, à la culture, au tourisme. Que font les gens quand ils vont voyager dans un pays? Ils vont voir des monuments, ils rencontrent des personnes, ils goûtent la bouffe locale, et s'il y a du vin local,
ils le goûtent
aussi.
Ouais.
Et c'est archi vieux comme le monde.
Ouais.
Et donc, que vous soyez jeune ou vieux, à un moment, vous y venez, en fait, de manière tout à fait logique. Hein. Enfin...
Tu veux dire qu'il y a une complexité aussi, un peu dans, de manière générale, dans le vin, et qui s'acquiert un peu avec le temps,
oui,
aussi, qui se
alors,
comprend.
Ce qui dessert parfois le vin, et encore, moi, je trouve qu'on peut, le faire, on peut faire, avoir une approche différente, c'est que ça donne souvent un côté un peu académique et ambiance, faut connaître, sinon on passe pour un imbécile, alors c'est quoi ce truc de snobinard, etc. Ouais. Et donc ça, je peux comprendre qu'il y a un rejet d'une partie plus jeune du public, parce qu'elles se disent, oh, c'est quoi leur truc, là, ils se prennent pour qui, etc. Mais moi, j'ai jamais eu une approche académique du vin. Quand j'ai vendu du vin dans le monde entier, dans toutes les cultures, etc., j'ai toujours dit aux personnes, vous passez pas un examen. On s'en fout si vous ne savez pas que c'est du pinot noir et que ça a été élevé en fût pendant 18 mois, etc. Mmh. L'important, c'est les sensations, l'envie de partager que vous avez, d'en discuter. Et vous allez voir, vous allez apprendre sans vous en rendre compte. Et c'est ça qui est génial.
Voilà. À force de partager des moments.
Ben voilà, exactement. Et une fois de plus, on n'a pas besoin d'avoir une culture encyclopédique du vin. Franchement, là, la composition du sol, on s'en fout. Est-ce que ça nous donne du plaisir? Oui. C'est ça l'important.
Bien sûr. Et après, si on a envie de s'y intéresser...
Ben voilà, on se plonge dedans.
Ben justement, moi, je te remercie ouais, pour ce moment, parce qu'on a appris plein de choses, et sur le domaine chanson, et sur toi, et sur la vigne, et plein de choses sur la Bourgogne aussi. Ce qui est génial, ouais, c'est qu'on a fait le tour de tous ces sujets qui sont chers pour nous, et de manière extrêmement naturelle, au fil de l'eau, sans qu'on fasse de changement. C'était très agréable, même pour moi, de te recevoir aujourd'hui. Donc, je te remercie sincèrement.
Ben merci, j'ai adoré aussi.
Bon, et puis, à bientôt sur Raisin d'être.
Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.